paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse inapprendre.
Qui continue à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans à la tête de l'eau.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Bonsoir, il est 18h02 sur Radio Canu, sur le 102.2 et sur radiocanu.org, et c'est l'heure des paysannes et paysans dans la lutte des classes. Donc aujourd'hui, on va écouter un entretien pendant toute l'émission, un long entretien avec Jérémy. Donc Jérémy qui est éleveur de brebis dans le sud de l'Ardèche et qui revient un peu sur le pastoralisme, sur l'accès aux ressources pour les brebis, sur le puçage électronique, sur les investissements, son installation et pas mal d'autres aspects de son activité. Donc on va commencer tout de suite, c'est un entretien réalisé par Guylaine.
Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire rencontrer Jérémy. Donc Jérémy et sa compagne Claire, ils viennent de s'installer en brebis viande dans le sud de l'Ardèche, près de la Baume. Et moi, ce qui m'a intéressé dans leur exploitation, c'est tous les choix militants qu'ils ont faits. Donc ça commence par... ils ont fait le choix d'avoir une exploitation avec peu d'investissement de départ, ce qui leur permet d'être relativement indépendants de toutes les subventions et donc de pouvoir se permettre des choix politiques, comme par exemple de ne pas pucer leurs brebis. C'est aussi le choix qu'ils ont fait du pastoralisme, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps, autant de temps que possible, à garder leurs brebis à l'extérieur. Et puis aussi le choix de la Cosnarde des Garrigues, qui est une brebis à faible effectif, comme nous l'expliquera Jérémy. Mais écoutons Jérémy, c'est quand même lui qui parle le mieux de son exploitation et il nous présente d'abord son parcours personnel.
J'ai toujours été intéressé par les brebis depuis que je suis tout petit. Et dès que j'ai eu l'occasion de me rapprocher du milieu, je l'ai fait, puisque je ne suis pas du milieu agricole à la base. Et donc j'ai fait des études agricoles bac STAE et BTS production animale dans les Alpes du Sud, à Digne. Et après j'ai fait une licence à Florac, en gestion des espaces naturels et agricoles, où je comptais un peu acquérir des compétences dans le pastoralisme. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais pas très peu de compétences en pastoralisme. Et après ça, j'ai tenté quelques postes de chargé de mission ou fait un rapport avec mon niveau d'études. Et puis, j'ai vu que les postes ne correspondaient pas à mes idées, à ce que je voulais, ce que j'avais envie de faire dans le milieu de l'élevage. Donc j'ai dit, on va faire ce que tu as envie de faire depuis le départ. Et puis, on va faire berger direct, quoi, et voilà. Donc j'ai commencé à postuler pour faire une première montagne, et je suis allé donc en cours de saison remplacer quelqu'un dans les Alpes, et ça s'est bien passé, même si ça a été dur, et ça m'a donné envie de continuer et de changer de vie, parce que ça a été vraiment un changement de vie total, quoi, en fait. de passer de donc d'un milieu scolaire avec juste des envies à un milieu professionnel que j'avais jamais côtoyé et, à part dans l'intention quoi. Et là d'avoir d'avoir un troupeau à ma charge et des responsabilités et une vie vraiment différente, ben ça a été dur de s'y confronter. Et après c'est avec le recul, ben maintenant je pense que je peux plus trop en sortir quoi. Et voilà, après l'idée de s'installer, ben c'est venu à la suite de mes différentes expériences en élevage, qu'il soit au niveau des brebis et en chèvre laitière, transformation fromagère. Voilà, j'ai essuyé pas mal les pots et puis j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences avec différents patrons, différents milieux. Puis au bout de 5 ans, je me suis dit ben, pourquoi pas tenter une expérience par moi-même et avec ma compagne. Et donc voilà, on a eu envie de faire ça en Ardèche et dans un territoire un peu vierge depuis quelques années de brebis quoi. Et ça a démarré, donc on a démarré il y a 3 ans en contactant la mairie et en initiant le projet comme ça tout doucement, en continuant à être salarié en montagne et en développant le projet parallèlement. Puis au fur et à mesure du temps, le projet a pris forme et puis on s'est lancé sans avoir de certitude sur le parcellaire, le foncier, en ayant juste senti que la population locale, les élus et certains propriétaires et anciens agriculteurs étaient prêts à nous installer. Et donc aujourd'hui on est en place depuis novembre, on a un petit troupeau de Cosnards des Garrigues. Et on compte s'agrandir et fidéliser le foncier, faire des conventions pluriannuelles de pâturage pour avoir un réel statut autre que des accords verbaux.
Donc ça c'est pour les terres, et pour la bergerie ça s'est passé comment? Vous êtes fait prêter une bergerie, c'est ça?
Alors la bergerie nous a été prêtée gratuitement par un habitant de la Baume. Et qui lui-même a été agriculteur et qui a toujours le titre d'agriculteur à titre secondaire. Donc son père avait des brebis et sa mère les gardait. Et donc ils nous prêtent leur ancienne bergerie. On a réhabilité leur ancienne bergerie. Donc on a fait pas mal de travaux parce que c'était un bâtiment qui était inoccupé et où ils avaient entassé pas mal de déchets. Et donc c'est sympa quoi de retrouver sa véritable fonction, hein. Puis ils sont contents. Donc eux ils nous aident surtout sur le relationnel avec les différents propriétaires, parce que en fait la zone où on est c'est que du privé. Et donc nous notre démarche c'est de contacter les gens avant d'amener les brebis, et même si c'est si on a affaire qu'à des terres incultes. Et voilà, c'est notre démarche et c'est comme ça qu'on sent que ça peut marcher, que ça peut bien fonctionner avec la population locale. Donc voilà, la bergerie, elle nous est prêtée. Donc on n'a pas de loyer. L'accès aux terres, c'est un échange, on va dire, de bons procédés. On entretient les parcelles et on nourrit notre troupeau en échange. On espère que ça pourra fonctionner comme ça et que l'outil qui permettra de fidéliser ce genre d'installation, ce sera des conventions. On a aussi une démarche qui est assez militante dans le sens où on trouve que les installations agricoles avec des gros investissements, ben, à l'heure actuelle, elles peuvent plus ou moins être mises en cause parce que dans le temps, on ne sait pas comment les choses évoluent, on ne sait pas comment la politique agricole évolue, et si on veut voler de nos propres ailes un jour sans aide publique, et ben, avec une installation qui au départ n'a pas besoin d'emprunter, ben, on peut plus avoir de marge sur l'évolution de l'entreprise.
Tu veux dire que là, pour le moment, vous n'avez aucune aide, aucune subvention, vous n'avez pas fait de demande d'aide pour vous installer ?
Alors, dans un premier temps, on avait envie de s'installer de manière classique et de demander la dotation jeune agriculteur. Donc c'est ce qu'on a fait. Je me suis engagé dans la démarche PPP, donc projet personne. Enfin bon, bref, la démarche DJA. Et donc j'ai commencé à faire des stages. J'en ai pas beaucoup à faire puisque j'ai quand même des compétences professionnelles et scolaires, quoi. Donc c'était bien parti pour continuer. Là, on avait prévu de passer en CDOA. Donc nous, on s'est installé officiellement en novembre 2011, et on avait prévu de passer en CDOA au retour de la montagne de l'été 2012. CDOA, c'est la commission qui donne l'agrément pour l'obtention de la DJA ou pas. Donc suite à la mise en place d'un dossier, des stages. Et des différents accords de la chambre d'agriculture et des directions qui leur sont rattachées, quoi. Et le gros souci qu'on a avec la démarche DJA, c'est qu'elle est soumise à un plan de développement économique qui est une bonne trame pour nous dans le temps, c'est-à-dire que ça nous permet de construire notre projet sur papier, d'avoir une ligne de conduite, mais d'autre part, ça nous bloque sur toute modification, c'est-à-dire que nous, dans le cas où on prévoit de faire notre bergerie sur un terrain, si on l'inscrit dans le plan de développement économique et dans le processus DJA, on est plus ou moins obligé de s'y tenir. Et nous, en fait, dans le cas de notre installation, on est tributaire de ce qu'on trouvera au niveau des surfaces et de ce qu'on arrivera à faire avec les habitants et les anciens agriculteurs. Et donc on est amené à modifier des choses dans notre système. Et donc du coup le dispositif DJA, il n'est pas forcément très adapté à notre situation. D'autre part, dans tous les cas, il faut savoir qu'on mène le projet seul et que même si on est accompagné, qu'on a un technicien, voire plusieurs, qui nous sont rattachés avec la chambre d'agriculture, on a l'impression que c'est juste pour qu'ils sont là juste pour appuyer notre dossier quand tout est concrétisé, et toutes les démarches initiales, c'est nous qui les portons. Du coup, on se demande pourquoi continuer avec ce genre d'organisme vu qu'on ne sait pas réellement à quoi ils nous aident.
Maintenant, alors qu'il est, vous n'avez pas reçu d'aide et vous avez arrêté de... Vous avez mis fin à la démarche de demande d'aide, en fait ?
Non, alors on a fait une demande de Primovin. Et donc suite à cette demande de Primovin, on a été contrôlé par les services vétérinaires. On n'a pas fait de demande d'ICHN ou de prime agro-environnementale.
Alors ICHN, c'est quoi ?
ICHN, c'est indemnité de handicap naturel. Par rapport à cette prime à la brebis, alors on sait pas si c'est, d'après la contrôleuse, c'est un tirage au sort, sauf que tirage au sort, déjà en élevage ovin en Ardèche, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'installent, on a de très fortes chances d'être contrôlé, et puis en plus en étant passé dans le dispositif DJA, ça réduit encore plus, ça amène encore plus de chances de se faire contrôler. Et donc la Primovine, elle est soumise à un cahier des charges, un engagement de la part d'agriculteurs, notamment de boucler les animaux en conformité avec la législation. Et nous, dans notre cas, et dans le cas de certaines exploitations dont on parle peu en ce moment, on refuse l'obligation de mettre des puces électroniques sur nos animaux. Suite à ce contrôle, on sait pas, on a eu des pénalités sur certaines brebis auxquelles manquaient des boucles qui s'étaient perdues dans la garrigue. Donc on est obligé de les remplacer. Et quant au bouglage électronique, ben, on n'a pas été sanctionné parce qu'on a acheté des animaux qui étaient déjà bouclés électroniquement et qu'on n'a pas débouclé. Par contre, nos agneaux qui sont nés sur l'exploitation en février, et dont une partie sera notre cheptel de renouvellement, ben, il ne sera pas éligible à cette PCO. Enfin, elle s'appelle pas PCO, c'est une, on va dire c'est la prime à la, qui est liée à la production en élevage ovin. Et donc toutes les femelles qu'on garde pour le renouvellement de, issues de notre élevage ne seront pas primables vu qu'on les identifiera sans électronique.
Et du coup, est-ce que tu dois aussi payer des amendes ou c'est juste que t'as pas droit aux aides ?
Alors, si on ne se soumet pas à la législation et qu'on demande les aides publiques, l'État et les organismes arrivent à nous mettre la pression à différents niveaux. Ils peuvent nous menacer de pas pouvoir commercialiser nos agneaux. Nous, on est dans un système transhumain, donc on peut être menacé de pas pouvoir transhumer nos bêtes.
Peut-être pour revenir au début aussi, est-ce que tu peux nous dire combien vous avez de brebis en fait ?
Nous on a 90 brebis pour l'instant. On a 40 agnelles et 40 brebis. Donc on a eu un petit agnolage sur nos 40 brebis. On a eu une quarantaine d'agneaux et 25 misbahs.
Elles sont en quelle saison l'agnolage ?
On a eu donc l'agnelage a démarré mi-février et s'est terminé mi-mars. On conduit nos agneaux à l'herbe avec leur mère dès que possible. On n'a pas de très peu de complémentation, y compris pour les mères et leurs agneaux. Les agneaux reçoivent du foin de luzerne en complément de la garde le soir. Et les brebis recevaient jusqu'à encore une semaine, c'est-à-dire qu'elles ont reçu à peu près un mois et demi une ration de foin de luzerne le soir. Mais sinon, elles tirent profit essentiellement de leur ration alimentaire extérieure. On est assez satisfait parce qu'on a un lot de brebis qui sont vieilles et elles élèvent leurs agneaux à peu près comme il faut. Et elles ne sont pas en mauvais état corporel. Et même là, en ce moment, avec la pousse de l'herbe, elles reprennent bien. Donc tout ça pour dire que c'est possible de faire de l'élevage sans mettre les agneaux en bâtiment et en poussant la ration alimentaire pour les brebis. Voilà.
Et alors là, pour le moment, elles mangent quoi dehors ? Tu peux nous décrire peut-être un peu où on est, qu'est-ce qu'elles trouvent comme nourriture ?
Alors nous, on est sur un milieu calcaire. Avec deux types, on va dire, de pelouses. On a un milieu qui s'appelle les gras et qui est dominé par une lande à buis et à chêne blanc. Et donc on y trouve des pelouses à brome dressée et à filande de Montpellier. Donc la filande de Montpellier, c'est une herbe d'hiver qui est très intéressante pour l'hivernage. Et le deuxième type de ressources qu'on a ici, c'est des anciens champs cultivés aux abords des hameaux. C'est des champs où on faisait où les anciens ont ramassé la terre des alentours. Et donc il y a un peu plus de terre que sur les landes à buis. Et donc la végétation est un peu plus riche, entre guillemets, et productive au printemps. Et là, on a tout un panel de légumineuses qui sont intéressantes pour les agneaux, et des graminées aussi, et tout un panel aussi de végétation arbustive. Voilà, il y a des petits acacias, des pruneliers, des jeunes micocouliers, des sureaux, tout un ensemble d'arbustes qui ont une rame très intéressante au printemps. Et on a même un arbuste d'hiver là qui s'appelle le nerprin et donc qui garde sa feuille l'hiver et dont les brebis et les chèvres en raffolent. Ça par contre c'est une ressource qui est amenée à disparaître vu que par le pâturage forcément on on amoindrira cette ressource au fur et à mesure des années, quoi. Donc tout ça pour dire qu'au niveau qualité d'herbe et ration alimentaire, c'est très intéressant de travailler sur ce milieu-là. Faut pas le dire trop fort parce que on est bien content que ça soit à l'abandon pour nourrir notre troupeau. Et c'est un milieu qui est assez fragile, notamment le pâturage d'hiver, parce que la filande de Montpellier donc se pâture qu'une fois dans l'année, enfin c'est préférable. De préférence l'hiver quand elle est en repos végétatif. Et actuellement c'est pas le cas pour beaucoup d'endroits où il y a de l'élevage bovin. Parce que les vaches séjournent trop longtemps sur les parcs, et y compris l'été. Donc nous, en gardant et en ayant une approche pastorale et d'éleveurs et bergers, on a le savoir-faire et on pâture aux bonnes périodes.
Et ça fait quoi comme surface à peu près pour le moment ?
On pâture sur, je dirais, une centaine d'hectares. Quasiment 80 hectares de collines pures. Et 20 hectares d'anciennes zones cultivées.
Et c'est des parcelles qui appartiennent plutôt à des gens, à des ardéchois, ou à des qui dépendent de maisons secondaires, d'anciens paysans, ou c'est un peu de tout ?
C'est essentiellement des ardéchois, plus ou moins éloignés de leur pays, enfin de leur région d'attache. On se rend compte que les gens connaissent quand même bien le territoire. Ce qui est important de dire aussi, peut-être, c'est la taille moyenne des parcelles, c'est moins d'un hectare. Donc ça fait beaucoup de propriétaires quand on veut rassembler le foncier dont on a besoin pour notre élevage.
Et les gens ont été plutôt contents de vous voir s'installer par ici, ou qu'est-ce que vous avez eu comme réaction autour de vous ?
Alors les réactions sont hyper positives. À chaque fois qu'on a demandé un accord à un propriétaire, on n'a jamais eu de refus, sauf si le propriétaire était déjà engagé auprès d'un autre agriculteur ou auprès d'une autre utilisation type parc pour des chevaux de loisirs. Donc notre projet est très bien accueilli. On sent certaines tensions historiques entre des familles d'anciens agriculteurs dont on n'est pas maître du tout et puis dont on comprendra jamais les tenants et les aboutissants. Mais des fois ça nous bloque un peu, où on a l'impression d'avoir fait des bêtises, alors qu'en fait c'est juste le fait d'être installé chez quelqu'un et c'était l'ennemi d'il y a trois générations de notre agriculteur. Ça fait partie du jeu. Et puis c'est important de comprendre aussi comment, à l'époque où ce milieu-là était bien plus utilisé qu'aujourd'hui, de comprendre que la vie était difficile, que les gens avaient vraiment besoin de leur terre pour vivre, pour manger, pour élever leurs enfants, et que justement ces querelles, elles sont pas nées de la pluie et du beau temps, elles sont nées vraiment du fait que ces surfaces étaient productives et vivrières. Et ça, on l'a oublié, même si on a des vestiges, qu'on avait des vestiges concrets avec les murs de pierre, avec les granges, avec la richesse du milieu. On ne peut pas l'imaginer ce que c'était. Par contre, au travers de ces témoignages d'anciens et au travers de leurs querelles qu'on ressent encore aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu privilégié pour ressentir cela, quoi. La génération qui est le plus proche d'avoir connu ce genre d'époque, aujourd'hui on va dire entre 75 et 85 ans, donc il se fait de plus en plus rare, et on est témoin des fois de leur saute d'humeur et ou de leur témoignage, et on en est flatté et très heureux de comprendre du coup comment ce territoire fonctionne et fonctionnait.
Thank you. Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et on vient de s'écouter Fugazi avec le morceau Strange Light. C'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Et puis on va continuer tout de suite à écouter l'entretien avec Jérémy qui élève des brebis dans le sud de l'Ardèche. Et puis on revient après pour d'autres infos et l'agenda.
Tu peux nous parler du choix de la race de brebis que tu as fait ?
On a choisi la Cosnard des Garrigues, c'est une race qu'on ne connaissait pas, qu'on apprend à connaître en la gardant. C'est une race donc à faible effectif. À faible effectif, ça ne veut vraiment rien dire, c'est juste un nombre, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est une race qui est rare, qui a bien chuté, qui est originaire du bassin des Garrigues de Montpellier, donc Hérault, Gard. Et c'est une race qui était conduite en gros troupeau et qui a chuté notamment au moment où la viticulture a pris de l'essor. Dans les détails, je ne pourrais pas apporter d'éléments précis, sauf qu'aujourd'hui on en est à un point où on a une association qui essaye de maintenir cette race avec deux autres races qui sont la Rayole et la Rouge du Roussillon. Et donc cette association, elle a comptabilisé à peu près 1300 brebis Cosnard, sachant qu'il en existe à peu près 3000, donc la moitié qui sont non officielles mais qui sont Cosnard aussi. Nous, ce qui nous a plu, c'est que dans tous les cas, les éleveurs de Cosnard nous ont semblé vraiment passionnés par leur race et par leur élevage. Ils sont tous en système pastoral et ils transhument à pied pour la plupart. Et nous, on a été. La transhumance à pied, on connaît très peu. Pourtant, on est transhumant, on sait ce que c'est, mais la transhumance à pied est de plus en plus rare, quoi, surtout dans les Alpes. Et on a beaucoup aimé leur système, leur rapport à l'animal. Et puis voilà, étant plus proche du bassin, on va dire du Languedoc que de Provence, on est un peu à cheval en étant en Ardèche. Et ben on a pensé aussi en rapport avec le milieu dans lequel on est que la Cosnard irait bien, quoi. C'est une brebis rustique, très rustique, haute sur pattes, qui supporte bien la chaleur. Donc on a pensé que ça irait bien. Pour faire des agneaux Cosnard, le système, on va dire, broutard de conduite à l'herbe des agneaux, c'est le plus adapté parce que c'est des animaux qui ont des croissances lentes. Donc c'est pas très pertinent de les pousser en bergerie et de faire des agneaux légers. On nous a dit aussi qu'au niveau du goût, la Cosnard était très appréciée. Donc on verra par la suite et avec le retour des consommateurs. Voilà, tout un tas de raisons qui ont fait qu'on a choisi cette race. Et aujourd'hui, on est très content de notre troupeau. On voit toutes leurs aptitudes à valoriser les terrains dans lesquels on les amène et elles se sont très vite adaptées à leur territoire et elles nous ont adoptés.
Tu gardes toute l'année, tous les jours, quoi qu'il arrive ?
Oui. oui et non, on essaye de faire des parcs dès qu'on a la possibilité pour se libérer du temps personnel et aussi pour nos démarches. Donc les parcs sont filets mobiles, journaliers ou sur 2 jours au maximum. Mais sinon on garde en essayant de rationaliser un peu le temps de garde, c'est-à-dire qu'on garde quand les brebis mangent. Et ça veut dire ce que ça veut dire. On essaye de couper la journée s'il le faut pour adapter les repas au mieux. Donc l'hiver en gros ça se traduit par à peu près 6 heures de garde quotidienne. Et ensuite quand les journées sont plus longues et que le temps est plus chaud, on essaye de maintenir ce rythme des 6 heures en coupant les journées et en essayant de se rapprocher des quartiers à faire manger, c'est-à-dire en faisant des parcs de nuit, en faisant des parcs de chôme, et en essayant de travailler comme ça, en fait, on a conscience que la garde, comme on nous a dit en chambre d'agriculture, c'est une perte de temps, et donc voilà. Et donc nous, on essaye de dire que justement, la garde, c'est justement notre gain de temps, parce que on nourrit notre troupeau, on surveille nos bêtes, on voit s'il y a des soins à faire, on a un suivi individualisé de chaque bête et un contact avec elle. C'est aussi notre plaisir, hein. Mais c'est quand même hyper pertinent de garder, surtout dans des territoires comme ça, où clôturer, c'est des chantiers coûteux et coûteux en temps aussi. Et puis derrière, c'est pas forcément pertinent pour la ressource, quoi.
Pour le moment, vos agneaux, vous les vendez où ?
On n'a pas fait encore de... On n'a pas commercialisé d'agneaux, parce que sachant qu'ils sont nés en février, on va commercialiser débuter notre vente à l'automne, à la redescente de la montagne.
Ah oui, parce que du coup, les brebis, tu les montes à la montagne.
Et les agneaux aussi. Donc on monte les brebis et leurs agneaux. Les brebis suitées à la montagne. À la descente, on garde nos femelles de renouvellement et on vendra tous les mâles en direct. C'est-à-dire qu'on va faire abattre à l'abattoir d'Aubenas. On va récupérer nos carcasses, les découper à un atelier collectif et les vendre comme on peut au particulier, soit avec un réseau de bouche à oreille, soit en faisant un peu de communication cet été par l'intermédiaire de Claire, ma compagne.
Et la laine ?
Alors la laine, sur la costarde, elle n'a pas une qualité énorme, cependant ça reste de la laine, et la laine en soi, quelle que soit sa qualité, c'est un matériau génial. Donc on aimerait bien la valoriser sur du moyen ou du long terme, parce que là pour l'instant on n'a pas vraiment de débouché, si ce n'est que Claire travaille la laine et tisse. Et donc on a peut-être des idées à ce niveau-là, en valorisant notre laine. Et sinon, on est ouvert à différents créneaux, à l'isolation, ou à la fabrication de matelas pour des tapissiers, à voir suivant les demandes ou suivant les possibilités. Voilà. Donc là, pour la première tente, pour l'instant, on va essayer de la faire carder et de la récupérer pour que Claire essaye de faire des tissages.
Et financièrement, je ne sais pas si tu veux trop rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez eu quoi comme investissement de départ, hein ? Vous avez des crédits, là, pour le moment ?
Non, on n'a pas de crédit. On a très peu d'investissement. On a l'achat du cheptel qui a représenté... à peu près entre 5 et 6 000 euros. On a acheté du petit matériel et on fabrique tout ce qu'on peut sur le matériel de bergerie et on récupère à droite à gauche. On s'enseigne beaucoup pour trouver du matériel d'occasion. Donc les râteliers, par exemple, qu'on a acheté, ça représente rien en investissement. Enfin, on en a eu pour 100 euros. Donc c'est du matériel qui nous a été plus ou moins donné par d'autres éleveurs, des anciens patrons, des fois. Et donc voilà, en investissement, mis à part le cheptel, et un peu du matériel donc de clôture, des filets, un poste électrique, on a eu très peu d'investissement. Voilà, il y a eu l'achat du fourrage. Bon, pour 90 bêtes, ça représente pas grand-chose, mais dès qu'on aura... plus de brebis, ben, ça représentera des frais. Mais donc on a l'achat du fourrage qui va être annuel, quoi, maintenant. Par contre, voilà, le seul pôle qui est très coûteux, c'est le transport de nos bêtes pour aller à la montagne. Ça, on peut pas faire autrement. C'est le même prix pour transporter 100 brebis dans un camion qui a 300 places que pour en transporter 300. Donc là, ça va nous faire cher pour cette année. Voilà, faut compter à peu près 1500 euros aller-retour pour aller à l'alpage où on va, c'est-à-dire à Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc ça fait une certaine somme, bon voilà.
Et sur l'alpage, t'es hébergé salarié, toi ?
Alors en montagne, on est salarié et on est depuis cette année adhérent au groupement pastoral de là-haut. Donc c'est-à-dire qu'on est éleveur et qu'on est à part égale avec les autres, quoi. Sauf qu'on est aussi salarié et qu'on garde les brebis des autres éleveurs.
Du coup, ça fait quand même une rentrée d'argent importante.
Ça fait notre rentrée d'argent pour cette année. Parce que là, pour l'instant, on a quasiment que des dépenses. On aura donc cette petite vente d'agneaux à l'automne qui va représenter au mieux, on va dire, 3000 euros pour 20 agneaux, quoi. Plus le salaire de la montagne. Voilà. Et la prime ovine, si on l'a, qui représentera pas grand chose, mais.
Ça représente quoi à peu près la prime ovine ?
La prime ovine, ça représente à peu près 20 euros par brebis primée.
Et Claire, du coup, elle va travailler à l'extérieur aussi pour essentiellement des questions financières ?
Alors, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble sur des tâches qui sont pas forcément les mêmes, mais qui sont liées à l'exploitation. Voilà, avec une démarche de vente directe, on pense qu'il y a du travail pour deux. Et donc, c'est notre but. Et pour y arriver, on a besoin de faire des compromis, de faire des choix pour l'instant qui collent pas trop avec ce qu'on veut faire, mais qui sont... on ne peut pas faire autrement. Donc Claire travaille à l'extérieur et l'idée c'est qu'elle me rejoigne dès qu'on aura pris un peu de solidité sur la ferme.
Et du coup, comment vous voyez l'avenir ? Vous pensez vous agrandir, essayer d'avoir plus de brebis, atteindre quel nombre à peu près ? C'est quoi vos objectifs en gros ?
Alors nous, on part sur 250-300 brebis, sachant que notre but c'est de vivre avec le moins de bêtes possible et en ayant le meilleur suivi possible sur nos animaux. Donc le chiffre exact qui nous permettra de vivre, on le connaît pas encore. D'après les moyennes, un peu les chiffres. De base, ça sera au minimum 250-300 brebis, en essayant de valoriser le maximum de nos agneaux en vente directe.
T'es à la conf, toi, ou t'es engagé dans des associations ou des syndicats ou des trucs comme ça ?
Je suis engagé dans l'association des bergers des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, au niveau de la rédaction de notre... lettre d'information de notre association. J'ai pas d'engagement, on n'a pas d'engagement, on se rapproche, on peut dire qu'on se rapproche des idées de la Confédération Paysanne, ça c'est sûr, comparé à d'autres syndicats et aux syndicats qui existent. Après, rien n'est parfait et donc... Moi j'étais jusqu'à présent dans une démarche de ne pas me rattacher à un syndicat, quel qu'il soit. Mais je commence à revoir un peu la question parce que la meilleure façon d'être militant c'est quand même de s'engager et même si c'est pas parfait et que je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe au sein de la Confédération Paysanne, fondamentalement j'ai quand même des ponts et des idées communes. Claire a très envie de s'y rattacher et puis moi je suivrai certainement. En tout cas, on est en lien et notamment au niveau du puissage, on a une action commune qui est de refuser l'obligation de pucer électroniquement nos animaux. Donc ça veut dire qu'on est tout à fait conscient et qu'on a pas d'objection à identifier nos animaux. Si ce n'est de manière électronique. Ça prend du temps de se mettre en réseau, de l'énergie, et on n'a pas toujours ce temps et cette énergie disponible à la fin de la journée, surtout en ce moment où on finit vers 10h du soir et on commence à 7h le matin. Mais bon, voilà, c'est pas une excuse. Ça serait bien qu'entre guillemets, on se bouge les fesses pour se mettre en réseau, avoir un peu plus de poids que ce qu'on a actuellement, qu'on soit pas des cas isolés, dès qu'on a un contrôle et que ça se passe mal, on se sente isolé. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, notamment en se mettant en lien avec d'autres métiers où ils ont les mêmes problèmes que nous. Il y a d'autres corporations qui refusent l'électronisation de leur métier. Et donc nous, au même titre qu'eux, on pourrait se battre et avoir des actions en commun. Je pense que là-dessus, il faudrait qu'on avance. Et après, au sein même du métier, on est très divisé, on est assez frileux dans l'ensemble. Dès qu'il y a une nouvelle mesure qui nous est destinée, ben on l'applique et puis on réfléchit pas trop à quelles répercussions ça a sur nos vies et sur notre élevage. Voilà, nous on considère que l'électronique ça va trop loin et on n'a pas du tout envie de favoriser ce type de démarche et de l'accepter d'un point de vue éthique, d'un point de vue professionnel. Voilà. On est plein d'envie, on a beaucoup d'espoir pour ce projet. J'ai un peu coutume de dire depuis quelque temps que notre installation elle est pas liée seulement à notre motivation. Il faut que derrière les choses suivent au niveau de la chambre d'agriculture, des élus et des habitants. Je pense que la vente de nos premiers agneaux sera le meilleur espoir pour la suite de notre projet. Et voilà, je vous invite à découvrir nos agneaux à partir d'octobre et être acteur de la filière parce que c'est le meilleur moyen de soutenir l'élevage ovin. C'est de consommer les produits qu'elle fabrique.
Crack of humanity. doesn't mean I don't like you.
No.
I opened my mouth and I tried and I tried. And besides, you're probably holding hands with some skinny pretty girl that likes to talk about bands. And all I wanna do is ride bikes with you and stay up late and watch cartoons. I'm just your average Thundercats home.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, on vient de s'écouter les Moldy Peaches avec Nothing Came Out. Et c'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes pour quelques minutes. Donc avant de terminer, on passe à quelques brèves et agendas. Donc ce matin, déjà petite info à Notre-Dame-des-Landes, toujours à Notre-Dame-des-Landes, la mairie a été bloquée par les opposants au projet d'aéroport. Pour empêcher les commissaires enquêteurs qui devaient venir à la mairie pour ouvrir l'enquête publique un peu fallacieuse et surtout qui allait durer 3 semaines en plein été avec pas mal de zones d'ombre. Donc ils ont bloqué la mairie un bon moment, sauf que les flics ont chargé le rassemblement, ils ont dégagé l'entrée, il y a eu un blessé à la tête. Et puis la gendarmerie a cassé les carreaux de la mairie pour rentrer. Voilà, sinon hier il y avait théoriquement le lancement du procès des faucheurs et faucheuses d'OGM à Colmar. Donc faucheurs et faucheuses qui avaient détruit des essais de vignes transgéniques menés par l'INRA, par l'Institut de Recherche Publique. Et donc ce procès est reporté en janvier 2013. Pour des histoires de procédure. Voilà, sinon pour l'agenda, il y a toujours Mouton 2.0, la puce à l'oreille, donc un film sur l'élevage et l'identification électronique. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur mouton-lefilm.fr, donc les dates de diffusion, et puis vous pouvez aussi les contacter pour organiser des diffusions près de chez vous ou commander le film. Ensuite, le 30 juin à Décines, il y a un événement organisé par les occupants et occupantes du terrain concerné par le projet d'OL Land, donc de mégastade de l'OL. Voilà, donc il y a un événement tout le week-end contre les projets urbains imposés de ce type. Et le 30 juin, quand même, on le dit aussi, il y a le festival de Radio Canu. Ce sera place Mazagran, dans le 7e arrondissement de Lyon, pas très loin de la Guillotière, avec des concerts, des émissions en direct, des prises de parole, tout un tas de choses, une buvette. Donc si vous êtes dans le coin, venez aussi. Et quelques infos encore. Donc du 7 au 11 juillet, on en avait déjà parlé. À Notre-Dame-des-Landes toujours, il y a le 2e forum européen contre les grands projets inutiles imposés. Donc la première édition avait eu lieu dans le Val-de-Suze en Italie, et là la 2e édition, donc sur le site du soi-disant futur aéroport de Vinci et de Nantes. Et donc voilà, l'idée c'est de se rencontrer entre des personnes qui résistent à des projets mégalomanes et inutiles comme le TGV Lyon-Turin ou l'aéroport de Nantes ou OL Land ou des choses comme ça. Et puis avant de terminer, une dernière petite date, donc on rappelle le 4 octobre, on en reparlera plus en détail, mais voilà, notez déjà la date, le 4 octobre à Saint-Étienne, il y aura le procès de 9 paysans inculpés pour avoir participé à la grève du lait en 2009 et accusés d'avoir déversé du lait dans la maison de l'agriculture. Donc ils sont accusés par inculpés sur une plainte de Groupama, du Crédit Agricole, de la chambre d'agriculture et donc risque quelque chose comme 116 000 euros d'amende. Donc voilà, ils auront besoin de beaucoup de soutien. C'est le 4 octobre à Saint-Étienne. Voilà, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. D'ici là, toujours le même contact, lutte paysanne au pluriel tout attaché, @riseup.net. Et puis vous pouvez retrouver les anciennes émissions sur blog au pluriel .radiocanu.org/lutte paysanne, ou aussi envoyer ce que vous voulez à Radio Canu, BP 1101 69 201, Lyon CEDEX 01. Si vous voulez envoyer des CD vierges ou des infos. Et ben, on vous laisse tout de suite, comme tous les jours, à 19h avec le Canu Info. Et après, à 20h, ce sera l'émission Bivouac. Bonne soirée sur Radio Canu.
Statut, quelque sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Mais tout cela parce que.
D'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les gens qui se déclarent paysans, la tête haute.